RCF.
Un Jésus qui se fait la malle et sème ses parents en plein pèlerinage à Jérusalem. Y aurait-il un petit air de crise d'adolescence dans l'évangile de ce dimanche ? On y découvre un jeune homme audacieux qui discute librement avec des rabbins illustres au temple de Jérusalem, pendant que des parents morts d'inquiétude battent la campagne et les pavés de la ville avant, enfin, de remettre la main sur leur fugueur de fils. Une aventure haute en couleurs et en émotions pour le dimanche dit de la Sainte Famille. Pour commenter cet évangile, je reçois la bibliste Anne Soupa. Bonjour à vous.
Bonjour.
Nous commençons par écouter la parole. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 41 à 52.
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.
Anne Soupa, nous allons essayer de voir en quoi cet évangile continue à nous parler aujourd'hui. Tout d'abord, le contexte. C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur la vie de Jésus entre sa naissance et sa vie publique, sauf ce que nous en dit Luc ici, une sorte d'épisode très bref de sa vie d'adolescent.
Effectivement, c'est le seul épisode d'une enfance consciente. Avant, il y avait effectivement la présentation au temple, au vieillard Siméon et à la prophétesse Anne, mais de sa vie d'enfant, c'est tout ce que nous savons. Et c'est vraiment intéressant de voir l'angle qu'a choisi Luc, c'est-à-dire la fugue, comme vous le faisiez remarquer à l'instant, cette manière de prendre ses distances de manière souveraine envers ses parents, non sans continuer à les aimer, puisqu'on dit à la fin du texte qu'il leur était soumis et qu'il les suivait dans toute la vie quotidienne. Donc vous voyez, il y a un acte de passage, authentiquement de passage d'un état de vie à un autre.
Juste avant ce pèlerinage à Jérusalem, il était question déjà de rite dans Luc, puisqu'on nous dit que Jésus est présenté au temple pour sa circoncision, c'est juste avant. Donc voilà une famille qui respecte les règles de sa religion.
Parfaitement. Mais les acteurs qui sont présents au temple, c'est-à-dire le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, ne sont pas les autorités les plus voyantes du temple.
Les grands prêtres prestigieux.
Les grands prêtres, voilà, ce ne sont pas les autorités les plus fortes du temple. Ce sont des personnages un petit peu marginaux, mais attachés au temple en même temps. Voilà, il y a cette inflexion que Luc veut bien montrer. Siméon est un homme qui vient au temple pour la circonstance, et Siméon représente une certaine continuité avec les Écritures et avec le Dieu d'Israël qui s'est révélé dans les Écritures, parce que le vieillard Siméon va reconnaître en Jésus celui qui l'attendait, le Messie. Donc, vous voyez, Siméon lui-même est une figure de passage et de continuité.
Et alors, 2 mots sur Anne, la prophétesse.
Anne est une figure dont on parle trop peu parce que elle a un côté subversif et rassembleur en même temps qui est très fort. Elle vient de la province la plus éloignée de Jérusalem. Donc, c'est une manière de dire que tout Israël est avec elle, tout le peuple est avec elle, puisque les confins les plus lointains viennent rendre hommage à l'enfant. Et en même temps, c'est une femme très âgée, elle a 84 ans. Pour qu'on nous dise son âge, c'est que ça a une certaine importance. Et 84, eh bien, c'est 7 multiplié par 12, 7 qui est la plénitude du temps, la semaine, et 12 qui est le nombre des tribus d'Israël. Donc, c'est-à-dire que tous les temps et tout l'espace rendent hommage à Jésus. Il y a cette conjonction du temps et de l'espace. Mais Anne n'est pas une figure officielle. Anne est une personne qui vit de sa foi. C'est tout.
Elle peut nous rejoindre dans ce sens-là.
Elle nous rejoint. Et en plus, c'est une communicante au sens moderne du mot. C'est-à-dire qu'elle va parler de l'enfant à ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc elle apporte une parole très forte, très encourageante, très constructive sur cet enfant.
Alors ça, c'est pour la circoncision, c'était juste avant. Donc Jésus est présenté au temple devant Zacharie et puis à Anne. Et puis on arrive à cette histoire de pèlerinage. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent au pèlerinage suivant la coutume. Le pèlerinage, pour la Pâque, c'est une tradition quand on est juif.
Oui, parce que les rois de Jérusalem ont réussi à implanter le temple unique, le lieu de culte unique qui était à Jérusalem. Et l'habitude s'est prise que de partout en Israël, on vienne à Jérusalem, on monte, c'est ce qu'on appelle, on récite les psaumes des montées, parce que pour aller à Jérusalem, il faut monter. Et alors la symbolique de l'ascension est forte, vous voyez, on monte sa propre personne, sa propre intériorité jusqu'à Jérusalem. Et cette fête de la Pâque commémore le passage de la mer, de la servitude égyptienne à la dure liberté du désert.
La sortie de l'esclavage.
La sortie de l'esclavage, l'apprentissage de la liberté avec ses difficultés, parce que le temps du désert est un temps rude, éprouvant, et où le peuple menace de sombrer dans le doute.
Enfin une bonne nouvelle, RCF.
Anne Soupa, Luc nous dit que Jésus a 12 ans, un âge bien précis dans le judaïsme. C'est l'époque où on fait sa bar mitzvah.
Bar mitzvah, effectivement, les juifs ont encore l'art des rites de passage que nous avons perdu dans nos sociétés occidentales. Et effectivement, à 12 ans, un enfant, garçon, doit aller à la synagogue et doit commenter un passage de l'Écriture. Et là, effectivement, dans le monde juif, on passe d'un coup de l'enfance à l'âge adulte. Il n'y a pas d'adolescence au sens moderne du mot.
Donc Jésus, Marie, Joseph avec le convoi, ils sont partis en groupe à Jérusalem. Et puis à la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Qu'est-ce qui se passe là? Jésus est devenu fugueur?
Il considère qu'il a des choses plus importantes à faire que de rester avec ses parents. Il a entendu pleinement la symbolique de la bar mitzvah et il fait ce qu'il pense qu'il doit faire. Et ce qu'il doit faire, ça n'est pas retourner avec ses parents dans leur lieu de vie à Nazareth. Ce qu'il doit faire, c'est être dans la maison de son père. C'est ce que nous allons voir bientôt. Voilà, il considère qu'il a plus important à faire. Et bon, il se sépare symboliquement de manière assez forte. Il montre qu'il a parfaitement compris la symbolique de la bar mitzvah. Il doit se séparer et il doit le signifier. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que Jésus, pour la fête de la Pâque, ne se contente pas de faire un repas, de dire qu'on est en fête, de mettre des beaux vêtements, d'être joyeux et de danser, de faire une grande fête.
Le rite tel qu'on l'a toujours pratiqué.
Voilà, mais il intègre dans sa propre existence ce passage par une décision forte qui est « je ne rentrerai pas avec mes parents à Nazareth ».
Anne Soupa, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. On y voit un Jésus qui prend la liberté de rester à Jérusalem après la Pâque, alors que ses parents sont repartis vers Nazareth dans la vie ordinaire. Et puis alors à un moment donné, ils se disent « Où est Jésus ?» Marie et Joseph ne s'aperçoivent pas tout de suite de l'absence du Fils, mais 3 jours après l'avoir cherché, ils le trouvent au temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Qu'est-ce que c'est un docteur de la loi ?
Un docteur de la loi, c'est un savant qui est capable de commenter la loi. Il est capable d'analyser verset après verset les différents sens de ce verset. Bon, les juifs sont effectivement les maîtres d'une lecture actualisée des écritures et en même temps, ils appliquent une lecture littérale. C'est-à-dire qu'ils sont aux deux extrêmes de nos lectures de la Bible, à la fois très littérale et à la fois très symbolique et spirituelle. Voilà. Donc ce sont des personnages très importants.
La scène se déroule au temple, ça n'est pas neutre, hein, à l'intérieur du temple.
Bien sûr. J'aimerais insister sur quelque chose que vivent les parents de Jésus. Ils le cherchent pendant 3 jours, il disparaît à leurs yeux pendant 3 jours et il réapparaît. Je pense que pour les parents de Jésus, c'est une préfiguration de la mort et de la résurrection de leur fils. Ils sont confrontés à une première mort de leur fils, le petit enfant disparaît.
Mort symbolique.
Une mort symbolique. Et d'une certaine manière, ça les prépare au grand événement de la Pâque qui aura lieu dans la vie adulte de Jésus.
Il faut rappeler que Luc écrit après la résurrection, donc il
Bien
a ça en toile de fond.
Toujours, oui.
Alors, Jésus écoute les docteurs de la loi, leur pose des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. Nous voyons un Jésus qui écoute, mais aussi qui questionne. Et Jésus n'arrêtera pas toute sa vie de questionner finalement tous les hauts responsables de la religion juive. Donc c'est une préfiguration.
Bien sûr, et c'est un acte de maîtrise parfaite du contenu des Écritures. Il étonne son auditoire par la pertinence de ses propos. Donc vous voyez, il y a un savoir-vivre de Jésus à l'intérieur des Écritures qui est assez extraordinaire et que nous devons garder en mémoire parce que Luc nous enseigne que on ne trouve jamais le salut loin des Écritures. Il faut commencer par les traverser et les commenter.
Mais visiblement, il ne se contente pas de la tradition puisqu'il interroge. Il interroge les docteurs. D'ailleurs, je crois que dans la tradition juive, c'est très répandu. On se pose des questions entre rabbins. Comment ça se passe?
Il ne fait pas que questionner, il répond aussi, effectivement. Alors, la dispute rabbinique est quelque chose de passionnant et de très déroutant pour des catholiques parce que c'est une dispute quasiment, une dispute au sens de disputatio, au sens latin du mot, c'est-à-dire un débat. Bon, quasi infini. C'est-à-dire que quand on croit avoir trouvé une réponse, quelqu'un fait rebondir le questionnement et le questionnement est infini. Bon. Et je pense que c'est une manière d'alerter sur l'altérité divine. On ne met pas la main sur Dieu, la réponse n'est jamais acquise, le questionnement revient continuellement.
Et Jésus arrive à répondre. Vous dites que c'est sans fin les questions, mais lui arrive à répondre.
Et lui arrive à répondre parce que Luc veut sans doute nous montrer cette adéquation parfaite et cette autorité sur les Écritures que Jésus révèle à ce moment-là.
Anne Soupa, Marie et Joseph finissent par retrouver leur fils fugueur et voici la réaction de Marie. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi... nous avons souffert en te cherchant. » Alors là, c'est la réaction qu'aurait eu tout parent.
Exactement. Luc nous montre des parents à l'image de nous tous quand un enfant fait une affaire pareille. Parce qu'effectivement, Jésus a vécu sa bar mitzvah, mais Marie et Joseph n'en ont peut-être pas pris la mesure, eux. Ils sont restés peut-être, je ne sais pas si c'est dans le côté superficiel de la chose ou dans l'importance du pèlerinage qui s'est passé, mais les attaches avec leur fils restent des attaches de parents attachés à un enfant. Bon, et effectivement, ils sont dans l'incompréhension et dans la tristesse et dans l'angoisse, et voilà, dans l'inquiétude.
Alors, on aurait pu se dire, bon, Jésus va les réconforter, mais c'est un peu dur ce qu'il leur dit devant l'inquiétude. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Comment comprendre cette réponse de Jésus?
Alors, on peut la comprendre en disant qu'il a parfaitement intégré sa bar mitzvah. Il est séparé et il ne comprend pas que ses parents s'inquiètent encore. Voilà, il est passé de l'autre côté. Et il en prend acte. Il n'y a aucune agressivité dans cette parole. Je crois qu'il y a une prise de conscience, qu'il est passé ailleurs et que ses rapports avec ses parents seront différents.
Alors, on peut dire qu'il relativise là les liens du sang, c'est-à-dire qu'il reconnaît son père et sa mère, mais en même temps, il se dit, mon père véritable, c'est Dieu, et du coup, je me fais le frère de chacun.
Alors ça, c'est tout un chapitre très important, mais effectivement, il est dans un rapport qui est devenu, comme le décalogue le dit, « Honore ton père et ta mère ». On est dans une distance raisonnable, mais l'affectivité joue un rôle moindre. Voilà. Et alors, bon, la question de la maison de mon père, elle est fondamentale, parce que effectivement, Jésus, par là, si vous voulez, la présence de Dieu au temple, c'est une réalité, enfin, c'est un acte de foi de la pensée juive depuis toujours. Au temple, Dieu nous fait l'honneur de nous offrir sa présence, qu'on appelle la Shekinah. Bon. Mais cette présence, c'est un don que Dieu peut décider de Dieu peut se rétracter de ce don. Bon. Donc la présence n'est jamais acquise, mais la présence, c'est le bienfait dont le peuple juif se targue. Il a la présence de Dieu au temple. Bon. Et voilà que Jésus, d'une certaine manière, dit « Je suis la présence de Dieu dans le temple ». C'est un peu ça qu'il dit. Et ce Dieu, c'est mon Père. Voilà. Il y a une superposition du Dieu d'Israël avec le Père que Jésus adore. Et il faut bien prendre conscience que la notion de paternité, de Père, n'est pas très développée dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament. Le nom de père est mentionné que deux ou trois fois. Ça n'est pas une manière juive de prier Dieu. Et voilà que Jésus introduit cette sorte de nouveauté très importante.
RCF, Béatrice Saltner.
Anne Soupa, la finale du texte, c'est que les parents ne comprennent pas grand-chose. Finalement, on nous dit que Marie méditait ça dans son cœur, hein, elle retient sûrement. Et puis, il redescend avec ses parents à Nazareth et il leur était soumis. Et puis, il grandit en sagesse, en taille et en grâce. Qu'est-ce que vous diriez sur cette finale?
Moi, je la trouve magnifique parce qu'elle nous ramène à deux choses essentielles. On peut ne pas tout comprendre, mais il faut garder dans son cœur. Voilà, ça, c'est très important parce que rien n'est jamais perdu. Il suffit de bien garder, d'avoir écouté. Et dans nos vies, on se rend compte que des choses émergent des années après certains événements. On comprend ce qui s'est passé. Donc, c'est pareil pour Marie et Joseph. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le second, eh bien, c'est que tout ce qui vient de se passer va se monnayer, si on peut dire, dans une vie quotidienne d'une grande discrétion, dans la soumission normale à ses parents, dans la vie quotidienne d'une petite ville, et sans tambour ni trompette.
Mais il y aura
éclat.
Un avant et un après. Il y aura
un avant et un après, bien sûr.
Des parents et dans la vie de Jésus.
Et comment ? Mais ça n'a pas besoin de manifestations spectaculaires. Voilà.
Et alors, grandir en sagesse, en taille et en grâce, qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus ?
Alors bon, ça veut dire qu'effectivement, la figure de la sagesse est une figure très prégnante du Premier Testament. Et d'une certaine manière, Jésus endosse la figure de sagesse avec ça. Et la figure de la grâce. La grâce, c'est ce qui est donné à titre gracieux, c'est-à-dire la miséricorde, la bonté. Donc voilà, on a un Jésus qui est à la fois sage et bon. Il n'y a que la mention de la taille, dont je ne comprends pas très bien comment elle s'articule avec les autres. Est-ce que c'est une taille morale, spirituelle? Voilà, je n'ai pas... Pas de rien à dire là-dessus.
Ou une taille physique.
Ou une taille physique, pourquoi pas.
On sait bien d'avoir encore des questions.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Anne Soupa, nous venons de lire l'évangile de ce dimanche en Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. En quoi cet évangile est-il une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui ?
Alors, je crois que c'est une très très bonne nouvelle pour deux raisons. Il nous enseigne la liberté souveraine d'un individu qui prend possession de lui-même, qui se reconnaît lui-même, qui s'identifie de manière liée à sa filiation divine, c'est-à-dire On n'oublie pas d'où on vient, mais on s'identifie soi-même. Donc ça, c'est le premier aspect. Et l'autre, c'est que il y a des Pâques à vivre pour nous tous, des passages continuels dans nos vies, et que ces passages se monnaient, se traduisent par une plus grande proximité avec le Seigneur. Nous avons à aller dans la maison de notre Père. Alors qu'est-ce que c'est que la maison de notre Père quand on sait que le temple juif de Jérusalem a été détruit
hein.
Mais voilà. Ouais. Mais Paul a bien dit, vous êtes le temple du Seigneur. Bon, donc le temple, c'est nous. Donc il y a un travail d'intériorité considérable qui nous est proposé d'aller en nous-mêmes retrouver ce Père dans notre maison intérieure et à travers les Écritures, de parler, d'échanger, de l'adorer, de le contempler, enfin bon, de déployer tout ce que l'on déploie avec le Père du Ciel.
Au Temple de Jérusalem, on voit un Jésus qui ne se contente pas d'écouter la tradition de ses pères, on l'a déjà dit, mais il la questionne. Est-ce que c'est une invitation pour nous à rester ouverts et surtout créatifs par rapport à nos habitudes, nos rites, la façon dont on célèbre dans les églises aujourd'hui ?
Bien sûr, c'est une constante, un constant appel à la vie, c'est-à-dire la vie, c'est le mouvement, puisque Pessa, c'est le passage. Donc passer, c'est être en mouvement. Donc être en mouvement, ça veut dire être constamment dans la sortie de soi. Vous voyez ce double mouvement qui est passionnant, d'entrer en soi pour être dans la maison du Seigneur, dans son temple intérieur, et de sortie de soi pour être capable de dialoguer avec les autres, de les écouter, de faire vivre le débat qui est essentiel dans une vie, faire vivre ce débat par un jeu permanent de questions, de réponses, de mouvements.
Oui. Je reviens sur l'idée de famille. Parce que, à plusieurs reprises dans les évangiles, on a l'impression que les liens du sang, sont relativisés. Il y a un épisode où la famille de Jésus le cherche, veut le ramener à la maison et il dit, mais au fond, qui sont mes frères? C'est ceux qui, et ma mère, et ce sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole. On pourrait dire que c'est les prémices de ce mouvement-là?
Ah, bien sûr. Et vous savez, on vante souvent la piété filiale de Jésus envers sa mère. Mais les rapports de Jésus et sa mère ne sont pas très bons, comme vous me le permettez de le dire. Il prend ses distances et effectivement, la paternité originelle, biologique, elle est respectée puisqu'on voit un enfant soumis à ses parents, mais elle est relativisée. Il y a bien autre chose, il y a d'autres liens de fraternité à tisser avec nos contemporains. Et là, il y a un travail considérable et ça, Jésus nous y appelle, c'est évident.
Le fait d'être tous enfants d'un même père nous fait être les frères et les sœurs des uns des autres. Et c'est à cette universalité que Jésus tire le monde finalement.
Ah, ça, c'est une des grandes révolutions, des grands apports de l'évangile, c'est que puisque le père de Jésus est notre père, effectivement, nous sommes tous ses enfants, tous placés sur un plan d'égalité en tant que frères et sœurs. Et la grande, grande, grande bonne nouvelle de l'évangile, c'est cette fraternité à mettre en œuvre. Et dans ce texte, nous avons effectivement une des pierres de fondation de ce qui sera déployé dans les évangiles au niveau de la fraternité. On a un acte de séparation d'avec les parents biologiques, séparation qui n'exclut pas le respect, on l'a bien dit et redit, mais qui ouvre à autre chose de plus grand.
Au regard de tout ce que nous avons dit, puisque c'est le dimanche de la Sainte Famille, comment comprendre, comment vous comprenez, Anne Soupa, ce que serait une Sainte Famille ?
Une famille qui respecte la liberté, la créativité, l'épanouissement personnel de chacun et qui se questionne continuellement pour savoir si les liens qui ont été tissés dans cette famille sont des liens libérateurs ou des liens de servitude. Voilà, je crois qu'il y a un questionnement permanent à avoir sur nos familles. Sommes-nous liés d'une manière qui libère ou qui entrave ?
Un grand merci à vous, Anne Soupa. On retrouve l'évangile de ce dimanche en Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.